Europe Matin, matinale spéciale Élysée 2022.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, bon réveil. On est heureux de vous retrouver ce lundi 25 avril après un dimanche historique.
Et c'est Emmanuel Macron qui vient d'être réélu président de la République. 57,9% des voix, un score important, 42,1% pour Marine Le Pen.
Vous avez voté, voici donc les résultats annoncés hier soir à 20h sur
Emmanuel Europe 1. Macron, réélu président de la République, donc avec un peu plus de 58% des voix face à Marine Le Pen. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais c'est tout de même 8 points de moins qu'il y a 5 ans. L'écart s'est nettement réduit.
Comment gouverner une France plus fracturée que jamais? Comment la réconcilier après cette campagne qui n'a pas soulevé les foules?
La preuve, près de 28% d'abstention hier, nouveau record. 150 000 personnes n'ont pas voté hier. C'est légèrement plus que le nombre de voix obtenues par Marine Le Pen, c'est dire la crise que traverse notre démocratie.
Et on en parlera avec votre invité à 6h15, Julien. Bruno Cotrès, qui est politologue au CEVIPOF.
Oui, on va analyser avec lui tous les résultats de ce second tour, tous ses enseignements. Puis on va poser cette question, celle qui s'est imposée dès hier soir. Que faut-il changer pour apaiser le pays? Emmanuel Macron est-il capable de changer de méthode?
Eh bien, cette question, on la posera aussi à 6h15 au député MoDem du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman.
Et puis on va aussi se pencher sur la suite, le fameux troisième tour, les législatives. Emmanuel Macron l'a dit, il veut un grand mouvement politique qui réunirait La République En Marche, le Modem, Horizon, le nouveau parti d'Édouard Philippe, sans oublier tous les ex-LR et ex-PS qui se sont ralliés ces dernières semaines. Bref, une maison commune très large avec le risque qu'elle se transforme en gloubie boulga indigeste. On verra cela avec notre invité. Enfin, une respiration musicale. Bienvenue dans cette matinale très politique avec votre partition.
Elle est née le 25 avril 1917. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. L'une des plus grandes interprètes de l'histoire du jazz, Ella Fitzgerald ce matin et sa merveilleuse collaboration avec Louis Armstrong. La partition, horaire avancé ce matin à 6h50.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. On commence en musique et en météo. Bonjour Anissa Madadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Quelle sera la météo de ce tout début de deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron?
Eh ben, ça s'arrange, ça va mieux. C'est le retour du soleil, doucement mais sûrement. Il faut savoir que sur certaines régions, on a passé un week-end maussade. Il y a eu de grosses inondations du côté de Nantes notamment. On a eu beaucoup de pluie sur une grande partie du pays. Alors doucement, le soleil revient par l'ouest avec l'anticyclone des Açores qui est en train de s'installer à nouveau dans son secteur. Donc ce matin, de la Manche jusqu'aux Pyrénées, après une matinée nuageuse, eh bien nous aurons un après-midi assez agréable avec beaucoup plus de luminosité. Attention tout de même, ce matin, si vous nous écoutez sur le bassin aquitain, on a beaucoup, beaucoup de brouillard. Des brouillards qui par endroits peuvent être très épais et donc qui peuvent compliquer les conditions de circulation. Entre le nord et la région parisienne, là c'est toujours agréable avec des éclaircies dès le début de journée. Au bord de la Méditerranée, c'est du grand soleil mais avec toujours Mistral et Tramontagne. Et puis c'est encore sur le grand quart nord-est, entre l'Alsace et l'Auvergne, qu'on a un ciel qui reste menacé, avec des petites averses entre le Jura et les Alpes. Ce matin, on a 4 à 9 degrés en général et jusqu'à 12 au bord de la mer.
C'est noté. Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Le président de tous les Français pour 50 plus. Emmanuel Macron réélu hier soir avec 58,54% des voix contre 41,46% pour Marine Le Pen. Résultat définitif, victoire célébrée sur le Champ de Mars par des militants soulagés. Nous les avons rencontrés. Élection présidentielle également marquée par un score historiquement haut pour la candidate du Rassemblement National qui ne compte pas s'arrêter là. En ligne de mire, les législatives dans cette semaine. Et puis de Rennes à Strasbourg, en passant par Toulouse et Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir contre la réélection d'Emmanuel Macron. Un reportage à suivre dans la manifestation parisienne.
Europe 1.
Élysée 2022.
Matinale spéciale.
Et le premier journal de ce lundi 25 avril vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron reste à l'Élysée 5 ans de plus, élu avec plus de 58,5% des voix contre 41,46% pour sa rivale Marine Le Pen. Un second tour également marqué par une abstention record depuis 50 ans à 28%. Et après le Louvre en 2017, c'est devant la Tour Eiffel au Champ de Mars que le président a prononcé son premier discours devant des milliers de militants qu'il a remercié tout en s'adressant également à ceux qui n'ont pas voté pour lui.
Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. À tous nos compatriotes qui se sont abstenus, leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Voilà, on vient d'entendre Emmanuel Macron, plutôt rassembleur. Jeu de lumière, DJ, l'ambiance était là hein, sur le Champ de Mars où Céline Géraud a passé la soirée pour Europe 1. Une victoire savourée par les plus de 2000 militants présents, mais pas d'effet surprise par rapport à il y a 5 ans. Reportage.
Une clameur très brève à l'annonce des résultats, mais pas de scène de liesse ou d'hystérie collective. Hier soir à 20h, c'était plutôt des oufs de soulagement. Et 90 minutes plus tard, le discours d'Emmanuel Macron a fait réagir les militants, toujours aussi passionnés, mais plus exigeants.
C'est un super discours, il a réussi, je pense, à rassembler tout le monde et c'est très émouvant. On a plein d'espoir pour ces 5 prochaines années.
C'était assez fort, assez émouvant. Il a notamment évité de parler d'une victoire écrasante ou d'une légitimité totale. Il sait qu'il va devoir faire beaucoup, beaucoup de choses pour la réconciliation des Français.
Là, aujourd'hui, on fait la fête, mais demain, on fait la bataille. Bataille des idées, bataille des valeurs. Et personnellement, j'ai pas envie ni d'un Mélenchon ni d'une Le Pen Premier ministre, on fera tout pour éviter ça. J'ai confiance en Macron, j'ai vraiment confiance en lui.
Et quand la musique a fini par s'arrêter autour de 23h, tous sont repartis, heureux et soulagés, et le regard déjà tourné vers les législatives.
Céline Géraud.
Et dans le clan de Marine Le Pen, la défaite est-elle dure à digérer ?
Eh bien écoutez, c'est la troisième fois qu'elle échoue à une élection présidentielle. Mais le score de la candidate RN est historiquement haut. On le disait, plus de 41% des voix. Alors Marine Le Pen ne compte pas s'arrêter là. En tout cas, c'est ce qu'elle a laissé sous-entendre depuis le pavillon d'Armenonville au Bois de Boulogne, d'où elle s'est adressée à ses soutiens.
Enterrée, nous l'avons été 1000 fois. Et 1000 fois, l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez.
À peine l'élection passée, toutes les têtes sont désormais tournées vers les législatives. Les 12 et 19 juin prochains, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont donné hier le coup d'envoi de ce troisième tour.
Et c'est dans ce contexte que 63% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité aux législatives et soit contraint à une cohabitation. Résultat d'un sondage Opinionway pour CNews Europe 1 publié dans la soirée.
La défiance est donc forte. La colère aussi, manifestation dans plusieurs villes de France hier soir, comme à Paris, place de la République, la statue y a été taguée de cette phrase « Le monde brûle ». Des heurts ont éclaté avant un retour au calme plus tard dans la soirée. Parmi les manifestants, beaucoup avaient voté Jean-Luc Mélenchon il y a 2 semaines, déterminés à donner le ton pour les 5 ans à venir. Reportage Zoé Pallier.
Une heure après les résultats, quelques fumigènes éclairent le ciel de plus en plus noir et les premiers slogans anti-Macron résonnent. Les voix et les visages sont jeunes. Dalia étudie les sciences politiques. C'était sa première élection présidentielle.
D'un côté, on est heureux que ce soit pas Le Pen qui passe. Mais en même temps, on sait que ça va être encore 5 ans de lutte. C'était impensable que je vienne pas ici. Je suis en partiel dans 2 jours. Mais pour moi, mon devoir de militante, il est bien plus important que mon devoir d'étudiante. Où on a besoin de manifester et de dire que ça va péter.
Vers 22h, certains manifestants quittent les lieux, les yeux rougis par des gaz lacrymogènes. Charlotte, elle, reste cette jeune enseignante, a voté Emmanuel Macron hier pour barrer la route à Marine Le Pen et souhaite montrer au président que son vote ne vaut pas soutien.
Ça fait 5 ans qu'on fait grève contre lui. Je peux pas voter pour lui et rentrer chez moi tranquille et me dire que pendant 5 ans ça va être la même chose, voire pire, parce qu'on sait que c'est son deuxième mandat, que là il aura même plus la pression de se faire réélire et je suis assez inquiète pour les 5 années à venir.
La bataille se fera dans la rue. La formule revient dans la bouche de nombreux manifestants désabusés qui ne croient pas à une large victoire de la gauche dans les urnes lors des législatives. Zoé Pallier, à Rennes, les policiers ont dû faire usage des lacrymogènes. Bilan 7 interpellations, une garde à vue. Près de 200 personnes ont également manifesté à Caen. Une a été interpellée.
À Paris, 2 morts et 1 blessé cette nuit sur le pont Neuf en plein cœur de la capitale.
Des policiers ont tiré sur un véhicule qui tentait de les percuter. La voiture roulait à contresens quand les agents ont voulu la contrôler. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN est saisie, comme c'est le cas dès qu'un policier fait usage de son arme.
C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de France, le déraillement d'un train à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne.
Rappelez-vous, c'était il y a 9 ans, l'accident avait fait 7 morts, des centaines de blessés. Ce lundi, 2 branches de la SNCF et 1 cheminot sont renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Evry pour homicide et blessure involontaire. Gladys Laffitte est au cœur du procès, ce morceau de voix qui s'était retourné.
Ah oui, pour les juges d'instruction, la cause de la catastrophe est liée notamment au défaut de maintenance de la voie combiné à un long délitement. Pour eux, la SNCF est en partie responsable de cela, défaillante dans l'organisation, le contrôle et la réalisation des opérations de maintenance. C'est ce qu'écrivent les juges qui ont aussi décidé de renvoyer devant le tribunal un cheminot. Il a fait la dernière vérification des voies 8 jours avant le drame, seul avec une attention manifestement insuffisante, je cite. Alors la longue enquête a donné lieu à des batailles d'experts qui continueront lors du procès, puisque 2 thèses s'affronteront devant le tribunal, celle du défaut de maintenance combiné à un processus de dégradation contre celle du défaut de l'acier défendu par la SNCF qui rejette toute responsabilité pénale dans l'accident.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Allez, on termine ce journal avec un peu de foot et la fin de la 34e journée de Ligue 1 hier.
Et cette victoire de Marseille à Reims, 1-0, même score pour Lille-Strasbourg. Rennes a balayé Lorient, 5-0, défaite de Bordeaux à Nantes, 5-3.
Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat, et mon pari gagnant sera le 402 The Machine. Il alterne avec brio les courses de haies et de steeple et c'est dans la discipline du steeplechase qu'il évoluera cet après-midi et force est de reconnaître que sans incident de parcours, il ne devrait avoir aucune difficulté à s'imposer étant assurément d'un niveau bien supérieur comparé à ses 6 adversaires du jour. Alors notez bien, pour Bordeaux-le-Bouscat, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 2, The Machine.
Le numéro 2, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et pas seulement, pour le traditionnel pressing, nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, on commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux qui bien évidemment sont toutes consacrées aux résultats de ce second tour de la présidentielle. Un nouveau départ, titre Les Échos avec pour illustration Emmanuel Macron levant les bras au ciel. Grande victoire, grand défi, ajoute le Figaro. Macron promet 5 ans de mieux, peut-on lire en une du Parisien aujourd'hui en France. Tout reste à faire, tempère pour ça par la croix. Macron réélu, merci qui ? Il interroge ironiquement Libération. Vous avez ça, voilà pour l'essentiel des unes disponibles à 7h. Omblin, on commence avec vous.
Tout autre chose, hein, on rêve tous, j'imagine, de parader avec un sourire ultra bright, des dents plus blanches que blanches, mais attention, vous pourriez vous retrouver plutôt avec des chicots nécrosés. Le Parisien aujourd'hui en France, et ça promet, hein. Le Parisien aujourd'hui en France a passé la porte de plusieurs salons esthétiques proposant sur leurs brochures manucure, pose de fossiles et blanchiment des dents à des prix défiant toute concurrence, 69 euros contre 350 euros minimum chez le dentiste. Cela peut monter d'ailleurs dans un cabinet dentaire jusqu'à 600 euros. Alors évidemment, les salons des esthéticiennes sont pris d'assaut, d'autant que le Hollywood Smile, comme on l'appelle, est ultra tendance. La question que pose le quotidien est, est-ce que ces instituts ont le droit de faire ces blanchiments des dents? Eh bien oui, à condition que le produit utilisé ait une concentration d'eau oxygénée inférieure ou égale à 0,1%, une concentration si faible que le produit se montre en réalité inefficace. Un gérant de salon confesse qu'il y a un petit peu plus d'eau oxygénée dans le traitement qu'il propose à ses clientes et ses clients. Si on reste dans la légalité, dit-il, ils seront déçus puisqu'il n'y aura aucun résultat, ou en tout cas pas tout de suite. Le dentiste, professionnel de santé, habilité, utilise des produits dosés jusqu'à 6% d'eau oxygénée, mais lorsqu'il pratique un blanchiment des dents, il s'assure qu'il n'y ait pas de contre-indication. Si vous avez une petite carie non diagnostiquée, non soignée, ou un petit bout de résine cassée, non détectée, eh bien le produit va pénétrer dans la dent. Résultat, douleur et nécrose. Il faudra dévitaliser. L'autre risque du blanchiment des dents, c'est une hypersensibilité et une usure prématurée. Donc imaginez l'état de votre sourire au bout de quelques années. Mais cette obsession de l'immédiateté, cette dictature de l'apparence font le beurre des influenceurs sur les réseaux sociaux, comme cette professionnelle de télé-réalité. Professionnelle de télé-réalité, ça va bien ensemble. Suivie par 1,5 million de personnes qui vantent les mérites d'un appareil à lumière bleue. Sans parler évidemment des charlatans sur Instagram qui vous reçoivent dans des appartements clandestins. Mettre son sourire en danger pour obtenir des dents blanches à l'américaine, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Ouais, ça fait pas envie.
On va garder nos
sur
dents jaunes.
Sur la photo, oui, mais quand on a les à côté.
Non, mais il faut voir ce que ça fait dans 10 ans, surtout.
C'est ça. Martin, on vous écoute.
Oui, je vous emmène au zoo ce matin, le Lincoln Park. C'est un zoo de Chicago, aux États-Unis, qui rencontre un problème pour le moins inattendu. L'un de ses pensionnaires, Amar, c'est un beau gorille adolescent de 180 kilos quand même. Eh bien, Amar a développé une drôle de maladie. Il est accro aux écrans de smartphone.
C'est pas banal,
non. Effectivement, les touristes passant leur journée à le prendre en photo et à lui montrer leur téléphone, eh bien, faut croire que ça lui plaît. Il passe de plus en plus de temps à regarder les écrans, dont un responsable du parc. Et donc, comme avec votre ado, il a fallu prendre des mesures radicales. Nous sommes obligés de nous assurer qu'il ne passe pas toutes ses journées devant les téléphones. C'est plus une question de quantité que de qualité, parce que ces écrans ont une mauvaise influence sur le développement d'Amar. Il entre normalement dans une phase importante de sa vie, où il doit commencer à interagir avec ses congénères. Problème, depuis qu'il est intéressé par les écrans, Amar a développé des troubles du comportement. Il se désintéresse complètement des autres gorilles.
Et ça prend quelle forme, ces troubles, Martin ?
Eh bien, par exemple, la semaine dernière, un autre gorille de son âge est venu se chamailler avec lui, un comportement assez normal à cet âge-là. Il s'agit de déterminer qui est le plus fort et qui sera le chef de la bande. Mais Amar, lui, n'a pas prêté du tout attention à son congénère. Il était scotché à un téléphone. Les spécialistes du zoo craignent donc que le jeune gorille devienne le souffre-douleur des autres. Par ailleurs, ils ne veulent pas non plus que ces autres singes imitent Amar et se mettent eux aussi à regarder les écrans. Bref, il a fallu agir. Désormais, il y aura une zone tampon entre les touristes et les animaux pour éloigner Amar le plus possible des écrans. Et puis des employés vont être postés près d'Amar pour faire de la pédagogie et expliquer aux photographes amateurs qu'il vaut mieux s'éloigner un peu du grand singe. Le zoo de Chicago s'inquiète pour son gorille accro aux écrans, c'est-à-dire sur le courrier international.
C'est quand même très savoureux.
Ouais.
Comme histoire.
Quelle belle époque.
Au début, j'ai cru qu'on lui avait filé un téléphone portable.
Non. Les doigts sont trop gros, il ne peut pas taper sur les...
Merci beaucoup, Martin. Près de 49 millions d'électeurs était donc appelé aux urnes hier pour trancher le duel Macron-Le Pen. Vous en connaissez désormais le verdict. Ce que vous ignorez en revanche, c'est l'énorme logistique nécessaire pour qu'un tel scrutin national puisse se dérouler normalement. Alors fort heureusement, ça a été le cas. Aucun incident majeur n'est à déplorer ce matin, mais il y a tout de même eu quelques petits couacs relevés par le site de Libération. Le premier tour avait déjà réservé quelques surprises. Des bulletins Anne Hidalgo laissés dans leur carton à Pau, des bulletins Éric Zemmour dérobés à Marseille, ou encore la porte d'un bureau de vote condamné à la Glu à Vatigny, c'est dans l'Aisne. Eh bien, ce deuxième tour n'a pas été triste non plus, comme à Compreignac, où il n'a tout simplement pas été éclairé. Ce petit village aveyronnais est en effet privé d'électricité depuis samedi après-midi. Les assesseurs ont donc utilisé un cierge pour apporter un peu de lumière aux quelques 160 électeurs de ce bureau de vote. Plus de la moitié d'entre eux ont porté leur choix sur Emmanuel Macron. À Warville, dans l'Eure-et-Loire, une récompense attendait les 252 votants. Chaque bulletin glissé dans l'urne donnait droit à deux barquettes de tomates cerises offertes par les agriculteurs du coin. Un cadeau qui n'est pas de saison, mais estampillé zéro pesticide. Là, c'est Marine Le Pen qui a obtenu le plus de voix.
voix.
Son ancien bras droit, Florian Philippot, était lui visiblement très pressé d'arriver à son bureau de vote. Alors qu'il se rendait en voiture à Forbach, c'est en Moselle, pour faire son devoir citoyen, l'ex-vice-président du FN a été arrêté par la gendarmerie. Motif de l'arrestation, son chauffeur et ami a eu le pied un peu lourd sur l'accélérateur puisqu'il roulait à une vitesse comprise entre 160, 170 et 180 km/h sur l'autoroute A4. Les forces de l'ordre n'ont eu d'autre choix que d'immobiliser le véhicule, ce qui a contraint Florian Philippot à finir son trajet en train, mais rassurez-vous, il a fini par atteindre son bureau de vote à temps. Du spectacle, il y en a eu aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, le département chéri de l'ancien candidat Jean Lassalle. Fort de ses 3,13% obtenus au premier tour, soit un peu plus d'un million de voix, le député avait annoncé qu'il voterait blanc au second tour. Eh bien, hier, il s'est ravisé et il a tenu à le faire savoir dans le bureau de vote de son village de Lourdios-Ichère. Il a mimé devant l'urne le geste du vote avant de glisser son bulletin blanc dans sa poche.
Je refuse de participer à ce vote. C'est-à-dire, je m'abstiens.
Jean Lassalle abstentionniste, c'est son droit le plus strict. Problème, l'ex-candidat n'avait absolument pas le droit d'annoncer son choix ainsi. Toute discussion ou délibération des électeurs est en effet interdite à l'intérieur des bureaux de vote, comme le précise le code électoral qui ne doit pas être étranger normalement au député Jean Lassalle. Les moments insolites du second tour de la présidentielle, c'est à lire sur le site de Libération.
Merci beaucoup Julien.
Est-ce qu'il risque Jean Lassalle pour avoir fait ça ?
Non, je ne peux pas les préciser, mais j'imagine une petite amende.
Oui, c'est sans doute. Ouais. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Élysée 2022.
Matinale spéciale.
Julien Pierce et Amblin Roche.
5h et bientôt 18 minutes sur Europe 1, les principaux titres de ce lundi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Emmanuel Macron rempile pour 5 ans. Le président a été réélu hier soir avec plus de 58,5% des voix contre plus de 41% pour Marine Le Pen. Un résultat historiquement haut pour le Rassemblement National. Abstention record aussi depuis 50 ans à 28%. Marine Le Pen satisfaite de son score. Hein, il représente selon elle une éclatante victoire. La candidate qui a donné le coup d'envoi dans la foulée de la campagne des législatives, la bataille est lancée. C'est le troisième tour, estiment les Insoumis et le Rassemblement National. Et puis la guerre en Ukraine, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis se sont rendus à Kiev hier à la rencontre de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, 2 mois, jour pour jour après le début de l'offensive.
C'est à présent la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes. Les initiatives en France nous emmènent en Auvergne.
Bonjour Julien Lerloux.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le cofondateur et gérant des cycles Victoire. C'est à Beaumont, au sud de Clermont-Ferrand. Et les Victoire, ce sont des vélos sur mesure, fabriqués à la main. Expliquez-nous.
C'est ça. Donc nous sommes spécialisés dans la fabrication de vélos sur mesure, avec un cahier des charges réalisé avec le client. C'est-à-dire que avant de fabriquer le vélo, on va apprendre à connaître le client, apprendre à connaître sa pratique, ses besoins, ses envies, construire avec lui un cahier des charges, et une fois qu'on est d'accord sur l'ensemble des caractéristiques du vélo, fabriquer le vélo aux mesures et selon les envies du client.
Ça veut dire qu'il est parfaitement adapté, ce futur vélo, à la morphologie du client ?
C'est ça. Le sur-mesure a plusieurs dimensions. Il y a la dimension morphologique, c'est-à-dire adapter parfaitement le vélo à la taille de la personne. Mais il y a aussi tout le côté... Donc dans le cahier des charges, il y a la pratique. Il y a des personnes qui vont faire du voyage à vélo et qui vont avoir besoin de sacoches, de lumière, de dispositifs qui leur permettent de voyager. Ou on a des personnes qui vont faire du vélo de façon sportive le dimanche matin. Donc le vélo n'est pas le même et nous, on s'adapte à cette envie, à cette pratique. Et on construit le cahier des charges en fonction. Donc, tous les détails sont adaptés au client.
Et ça change tout, un vélo où chaque longueur de tube ou la forme du cadre a été adaptée en fonction de la pratique du client et de sa morphologie ?
Ça change beaucoup de choses puisque cette adaptation va faire que le client se sent tout de suite super bien dessus. Et puis après, l'utilisation, toutes les caractéristiques vont correspondre au terrain sur lequel il évolue, au type de pratique qu'il va avoir. Et donc, il va en ressentir que du plaisir. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire, maximiser le plaisir avant tout.
Alors, on ne l'a pas encore dit, mais les cycles Victoire n'utilisent que de l'acier ou de l'inox. Pourquoi l'acier plutôt que l'aluminium ou le carbone qui sont très répandus maintenant ?
Alors, c'est un choix avant tout lié à moi, mes connaissances techniques que j'ai eues, puisque j'étais avant tout ingénieur, donc avec un master recherche en mécanique des matériaux. Et il se trouve que l'acier et l'inox sont des matériaux particulièrement bien adaptés à la fabrication de vélos, pour deux raisons. Déjà parce que on peut fabriquer un vélo en acier assez facilement, sans gros investissement. Donc nous, on est une entreprise artisanale, on est neuf à travailler aujourd'hui. Alors forcément, on a besoin d'outils spécifiques, mais on n'a pas besoin d'investir des millions pour avoir de l'outillage qui nous permet de faire ces vélos-là. Et ensuite, l'acier, de par sa très grande résistance mécanique, permet de faire des vélos à la fois légers et extrêmement durables. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos vélos sont garantis à vie pour le premier utilisateur. Et on s'inscrit vraiment dans une démarche de durabilité pour nos produits. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'acier. Alors, par rapport au vélo carbone, on va peut-être être un tout petit peu plus lourd. Mais par contre, voilà, derrière, on a une garantie à vie, on a un confort qu'on n'arrive pas à obtenir avec un vélo en carbone. Et on a surtout ce côté adaptatif où on peut très facilement changer d'un vélo de route à un vélo de voyage, à un vélo de ville, à un VTT avec notre mode de fabrication. Alors qu'avec un vélo en carbone, ça serait pas possible puisqu'on aurait des moules pour faire le cadre et on serait tenu de respecter ce moule pour faire les vélos. Donc on n'aurait plus le caractère sur mesure qui fait partie de l'ADN de Victoire.
Alors ces tubes d'acier, vous les soudez entre eux pour avoir in fine un cadre et vous utilisez, je crois, une technique artisanale qui donne un rendu très propre, très lisse, le soudo-brasage. En quoi ça consiste ?
Exactement. Alors nous, on choisit de souder nos vélos à la flamme. En fait, maintenant, dans l'industrie, ça a imposé un type de soudure avec un arc électrique qui va fondre le métal et qui va le fusionner. Nous, on utilise une technique qui est un peu plus ancienne, avec une flamme et un métal d'apport. Pour nous, c'est un alliage qui est avec une grosse majorité d'argent. Et donc, le procédé qu'on utilise est un petit peu plus artisanal, un petit peu plus ancien, mais il y a deux gros avantages, c'est que déjà, on va moins chauffer le matériau, donc on va moins l'abîmer. Donc les zones autour des soudures ne seront pas abîmées par la soudure. Et deuxièmement, on peut ensuite les polir à la main. Donc nous, quand on fait un vélo chez nous, il y a à peu près une journée sur le temps de production du vélo qui est dédié au polissage pour avoir un rendu parfait. Et ça nous permet d'avoir un produit extrêmement résistant et très bien fini. La contrepartie, c'est que ça prend du temps et industriellement, c'est pas applicable. Nous, on est des artisans, on peut se donner le temps de faire le vélo comme on l'entend et c'est pour ça qu'on a choisi ce procédé.
Et le résultat final est juste magnifique. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à se rendre sur votre site internet pour admirer vos vélos. Alors, il y a les cycles Victoire, des vélos sur mesure, donc on l'a entendu, mais vous avez aussi une autre marque, Distance, c'est son nom. Quelle est la différence avec Victoire Cycle ?
Alors, Distance est née quelques années après les débuts de Victoire. En fait, on s'est aperçu au fur et à mesure des années que les gens venaient vers Victoire, mais n'avaient pas forcément tous besoin de l'éventail des possibilités de personnalisation qu'on proposait. Et donc, il y avait des gens qui venaient vers nous, qui étaient intéressés par le côté fabrication française, artisanale, mais ils n'avaient pas forcément besoin d'un sur-mesure parce que ils se sentaient très bien sur leur vélo en taille standard, ils n'avaient pas de particularité morphologique, ou ils n'avaient pas envie de choisir parmi une infinité de couleurs et de prendre un vélo rouge ou un vélo vert, ça leur suffisait parfaitement. Donc en fait, on s'est aperçu que le côté sur mesure était primordial chez nous, mais qu'on avait aussi des gens qui étaient intéressés par notre savoir-faire. Et donc Distance, c'est ça, c'est mettre notre savoir-faire à la disposition des gens qui n'ont pas forcément le temps d'attendre 12 mois leur vélo sur mesure ou qui ont un budget un peu plus réduit que ce qu'on propose pour Victoire. Et donc Distance, on l'a créé en 2019 et donc maintenant c'est une majorité de notre production. Il faut savoir qu'on fait à peu près une centaine de distances par an et une trentaine de Victoires par an.
Ouais, et ça reste des cadres en acier soudés à la main.
Exactement, le procédé est strictement identique, c'est fait par les mêmes personnes dans le même atelier, avec le même procédé, le même savoir-faire, mais la standardisation des tailles de cadre et le nombre réduit d'options nous permet de proposer ça dans des délais beaucoup plus réduits et à un tarif plus avantageux.
Merci beaucoup, Julien Lerloux, de nous avoir présenté les cycles Victoire ainsi que Distance, votre autre marque. Ce sont des vélos donc fabriqués à la main en Auvergne. On vous souhaite bonne route et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h28, bon réveil avec Europe 1, matinale spéciale présidentielle avec à suivre le journal de Christophe Lamarre et puis votre invité à 5h45, Julien.
Le député Modem du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman, l'un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron, réélu hier soir, vous le savez, avec un peu plus de 58% des voix. C'était 66% il y a 5 ans. Comment gouverner une France plus fracturée que jamais? Comment la réconcilier? Et puis comme la politique ne s'arrête jamais, on doit aussi se pencher sur les législatives. Emmanuel Macron l'a dit, il veut un grand mouvement politique. À quoi va-t-il ressembler? On en parle avec notre invité dans un quart d'heure. Et puis votre partition, Omblin, partition un peu plus matinale qu'à l'accoutumée.
Et avec l'un des plus grands duos dans l'histoire du jazz. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. La pureté et la rondeur du timbre de la Fitzgerald combinée à la voix rocailleuse de Louis Armstrong et sa trompette chaleureuse, la partition avant 6h ce matin.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
La météo avec Anissa Haddadi et malgré l'amélioration générale, le ciel reste bien gris dans le nord-est.
Oui, en Alsace, en Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord de l'Auvergne, c'est vrai qu'on a un ciel qui est encore chargé hein, ce matin et toute la journée avec des averses. D'ailleurs, cet après-midi, entre le Jura et les Vosges, là, ce sont les orages qui éclatent. Attention, ce matin également, si vous nous écoutez, entre la Gironde et l'Aveyron, sur la Nouvelle-Aquitaine, là, on a beaucoup, beaucoup de brouillard. Ce matin, des brouillards qui peuvent être épais et qui peuvent gêner les conditions de circulation. Dans l'après-midi, le ciel va s'éclaircir sur les trois quarts du pays. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour avec l'anticyclone des Açores qui remonte. Le soleil l'emporte partout, sauf dans le nord-est. C'est au bord de la Méditerranée que le ciel est le plus dégagé. Avec du vent tout de même, hein, c'est du vent d'ouest qui souffle sur le Var et la Corse. 4 degrés à Tarbes ce matin, 6 à Nancy, 8 à Brest et Saint-Etienne, 10 degrés pour Paris et 13 à La Rochelle.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce lundi, évidemment, Emmanuel Macron remporte l'élection présidentielle. Le chef de l'État déclaré vainqueur avec 58,54% des voix contre 41,46% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron conserve son fauteuil comme François Mitterrand et Jacques Chirac avant lui. Une victoire qui m'oblige pour les années à venir. Les premiers mots d'Emmanuel Macron qui promet d'être le président de tous. Dans le camp des vaincus, en revanche, Marine Le Pen donne déjà le rendez-vous aux législatives. La candidate du Rassemblement National progresse de 8 points par rapport à la présidentielle de 2017. Et puis l'autre enseignement de ce scrutin, c'est la forte hausse de l'abstention. 28% des électeurs ont boudé les urnes. Quant au vote blanc et nul, on bat aussi des records, plus de 3 millions.
Europe Matin, matinale spéciale Élysée 2022.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Emmanuel Macron, président obligé. Le chef de l'État remporte la présidentielle avec 58,54% des voix contre 41,46% à Marine Le Pen. Chiffre du ministère de l'Intérieur, victoire nette. Mais la poussée de l'extrême droite et la forte abstention constituent un nouvel avertissement. Ce succès m'oblige pour les années à venir. Premier mot du chef de l'État à ses supporters réunis au Champ de Mars à Paris. À quelques kilomètres de là, Marine Le Pen lui répondait comme en écho depuis le pavillon d'Armenonville au bois de Boulogne.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
Première déclaration de Marine Le Pen au pavillon d'Armenonville au bois de Boulogne, propos recueillis par Nina Droff.
Marine Le Pen battue, mais la candidate du Rassemblement National voit déjà plus loin. Elle donne rendez-vous aux législatives.
Élection programmée les 12 et 19 juin prochains. Dans un peu plus d'un mois, le Rassemblement National espère transformer l'essai à la lumière des scores très élevés réalisés dans certains départements. C'est le cas du Pas-de-Calais, où Marine Le Pen devance Emmanuel Macron de 15 points. Appel entendu notamment dans son fief d'Hénin-Beaumont. Reportage Lionel Gougelot.
Malgré le coup de massue de la défaite, les électeurs d'Hénin-Beaumont ont rapidement trouvé dans le discours de Marine Le Pen la force d'en découdre à nouveau.
Nous
lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
On baisse pas les bras, on sait qu'on va être là pour elle, pour les législatives, et on verra ce que ça donnera.
Pour les législatives, il faut plus de députés largement pour Marine Le Pen. Il faut que tout le monde se réveille.
Plus de députés Rassemblement National pour combattre la politique d'Emmanuel Macron.
Espérons que ça va nous permettre de nous sortir un minimum de la panade dans laquelle on est reparti pour 5 ans. Et espérons surtout qu'il n'ait pas la majorité, de manière à pouvoir bloquer certaines choses et pouvoir s'en sortir un minimum.
D'autant que malgré tout, le discours de Marine Le Pen fait son chemin dans l'opinion, selon Adrien.
Je pense qu'il y a des idées qui ont peut-être été entendues, parce qu'il y a une souffrance dans le pays.
Mais l'objectif, selon Christopher Surek, le premier adjoint à Hénin Beaumont, c'est bien de faire du Rassemblement National la première force d'opposition à Emmanuel Macron.
Il va falloir que certains y aient expliqué le soutien qu'ils ont apporté à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ils essaient de se présenter en premier opposant, je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. Si demain, on a la retraite à 65 ans, ce sera en grande partie à cause de Jean-Luc Mélenchon.
Un Rassemblement National confiant dans sa capacité à conserver ses circonscriptions dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Ici, dit un élu, la diabolisation, ça ne marche pas. Hénin Beaumont, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et pour le vainqueur de ce scrutin, le plus dur commence. Emmanuel Macron va devoir gouverner un pays coupé en deux.
Voire même en trois, si l'on tient compte de la France insoumise qui espère bien profiter des législatives pour s'offrir elle aussi un match retour. Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la 5e République, commentaire de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'État va-t-il pour autant modifier sa feuille de route? La réponse en forme de constat hier soir du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Ça n'empêche pas d'avoir des constats. Une abstention qui a été élevée au second tour, un Rassemblement National, l'extrême droite, qui fait le score le plus élevé qu'elle ait jamais fait, ce qui nous oblige pour la suite. Vous avez parlé de continuité ? Oui, il y aura la continuité, puisque c'est le président qui est réélu, mais il n'y aura pas la continuité dans la façon de mener l'action publique. Et des messages importants qui ont été portés par les Français, lors du premier tour notamment, ont été entendus, on l'a vu d'ailleurs dans l'entre-deux-tours, pour plus de justice sociale, plus d'écologie, et donc un changement de méthode aussi, davantage concerter les Français. C'est en responsabilité que nous accueillons ce résultat, qui est aussi évidemment un soulagement pour nos, je le dis, pour nos institutions, pour la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Quand on est un progressiste, on ne peut qu'être satisfait ce soir.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier soir sur France 2.
C'est l'une des questions de ce nouveau quinquennat qui s'ouvre. Emmanuel Macron va-t-il donner un coup de barre à gauche ?
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de tous. Autre déclaration d'Emmanuel Macron hier soir. Le chef de l'État, conscient d'avoir bénéficié du rejet et d'un front anti-Marine Le Pen, adapter sa politique en fonction ou maintenir le cap du premier quinquennat, Jacques Serret, la Macronie se retrouve prise en étau.
Oui, le plus dur commence. Emmanuel Macron doit faire face à un dilemme. Prendre en compte ceux qui ont voté pour lui par défaut ou bien débuter ce second quinquennat de la même manière qu'il a terminé le premier, en se focalisant sur sa base. Une question qui divise au sein même de son entourage. Plus de 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont voté pour lui au deuxième tour. Il ne faut pas donner l'impression que l'on trahit cet électorat, analyse un conseiller. Qu'est-ce que l'on fait de ces 50% ? S'interroge un autre, qui remarque au passage qu'une partie des électeurs de gauche ont aussi voté pour le président sortant dès le premier tour. D'une façon ou d'une autre, ça nous oblige, analyse un proche du chef de l'État. Expression utilisée par Emmanuel Macron lui-même dans son discours au Champ de Mars.
Je veux dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Alors, désir sincère de rassembler ou vœux pieux, Emmanuel Macron avait dans son programme certaines réformes impopulaires à gauche, comme celle des retraites. Un lieutenant du président ne cachait pas son souhait de passer à l'action rapidement. C'est le principe de l'élection. Il y a un vainqueur, il doit appliquer son projet. Une nouvelle ère du « en même temps » qui s'ouvre pour Emmanuel Macron.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Des électeurs de gauche et notamment ceux de la France insoumise qui seront très attentifs au premier pas du président réélu.
Emmanuel Macron avait donné un coup de barre à gauche en fin de campagne. Exit la retraite à 65 ans, promesse d'un virage vert aussi, avec la nomination d'un Premier ministre chargé de la planification écologique. À Montreuil, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour, les électeurs de la France insoumise espèrent que le président sortant nouvellement réélu tiendra compte de leur vote. Reportage Yuan Trit.
Macron.
Pas vraiment de suspense lors du dépouillement à Montreuil, dans cette ville populaire de la banlieue parisienne. Emmanuel Macron a recueilli 83% des suffrages hier. Le président de la République a bien profité du report des voix de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Gaëtan a voté pour le candidat La France Insoumise au premier tour, puis Emmanuel Macron au second. Elle espère que son vote comptera.
Qu'il fasse un pas aussi vers l'autre partie de l'électorat qui a sans doute voté pour lui. Dans ce que j'attends de lui, c'est avoir plus des mesures plus sociales, plus écologiques aussi.
Un espoir qui n'est pas partagé par Louise, qui elle s'est résignée à voter par défaut.
tellement pas un vote d'adhésion et de conviction que voilà, on a fait à nouveau barrage à l'extrême droite. On a hésité jusqu'au second tour, enfin jusque là, quelques heures avant le vote. Non, on attend le troisième tour législative. En se mobilisant largement pour Jean-Luc Mélenchon.
La ville de Montreuil qui a connu une abstention record, 34%, soit 3 points de plus qu'en 2017.
Et une soirée électorale marquée par plusieurs rassemblements en France pour protester contre la victoire d'Emmanuel Macron. Plusieurs centaines de manifestants se réclamant des mouvements antifascistes et anticapitalistes avec des incidents à Paris, place de la République.
Les principaux dirigeants mondiaux, eux, saluent la victoire du président Macron.
Les dirigeants européens dans leur ensemble applaudissent la réélection du chef de l'État. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen se réjouit. Le chancelier allemand Olaf Scholz félicite le président Macron. Félicitations aussi venues d'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky salue un vrai ami des Ukrainiens.
La plupart des télévisions et des radios comme Europe 1 ont suivi cette présidentielle. Arte aussi avait décidé de suivre cette élection.
Jour de gloire, c'est le titre de cette expérience inédite pour la chaîne avec une fiction tournée en direct. Les acteurs ont appris le résultat de l'élection au moment de jouer. Reportage Marie Gickel.
L'histoire se déroule un certain dimanche 24 avril 2022. Deux frères en froid se retrouvent pour aller voter dans leur village natal dans le Lot. Il est 19h, la radio ne parle que du second tour. Ici, aucune mise en scène. Tout a bien été tourné hier. Un seul plan séquence à travers la campagne, le bar de la ville, la maison d'enfance. La fiction et le réel se confrontent. Florent Péfer, le producteur du film.
On va avoir un plan qui va être très important, qui va se jouer dans le dépouillement, dans le vrai dépouillement de la mairie.
Une seule prise, donc une prouesse technique pour la régie et les acteurs. Même la bande-son du musicien Flavien Berger a été jouée en direct. Florent Péfer.
Quelqu'un qui regarde le film sait en regardant qu'on ne sait pas, sait qu'on ne peut pas savoir à 20h00 qui va être élu, ou en tout cas on ne peut pas savoir à quel niveau il va être élu. Donc tout ce système-là, ça va donner encore plus de force au personnage, encore plus de force à l'histoire.
Dernière inconnue de cette première, la météo.
Un jour de gloire, fiction qui sera d'ailleurs rediffusée ce soir sur Arte.
On termine avec le sport.
En football, Marseille conforte sa deuxième place de Ligue 1 après son succès 1-0 sur Reims. Enfin, en MotoGP, Fabio Quartararo remporte le Grand Prix du Portugal devant un autre Français, Johan Zarco.
Première victoire de la saison pour le tout nouveau champion du monde de MotoGP. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses hippiques et non mécaniques. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat pour ce quintet, un handicap qui réunira 16 galopeurs âgés de 4 à 9 ans sur la distance de 1600 mètres. Et sur cette piste annoncée très souple, je vous recommande Goldino Bello, le numéro 14, très confirmé dans ce type de terrain sur lequel il vaut quelques longueurs de mieux et dont la parfaite condition physique est certaine, comme le prouve sa récente deuxième place obtenue dans un quintet similaire le 5 avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On lui opposera les numéros 3, Bayoun, deuxième de cette même épreuve l'an dernier, 5, Shielding, avantagé lui aussi par l'état du terrain, et 9, Royaumont, excellent troisième pour sa rentrée dans le quintet du 31 mars à Chantilly et qui ne pourra que progresser sur cette réapparition. Enfin, les numéros 8, Afghani, 4 Fly d'Asp, 6 Ascot Angel et 13 Swiss Bank peuvent eux aussi s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 14, 3, 5, 9, 8, 4, 6 et 13.
Vous retrouvez ces pronostics dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Restez avec nous dans un instant, je reçois le député MoDem et vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Waserman, sa réaction à la réélection d'Emmanuel Macron et le troisième tour qui se profile avec les législatives. A tout de suite.
Europe 1, matinale spéciale Élysée 2022.
Excellent début de matinée, il est 5h42. Votre invité, Julien, est député MoDem du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale.
Bonjour Sylvain Waserman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, le président de la République que le MoDem soutient depuis sa première campagne il y a 5 ans. J'imagine donc que vous êtes ravi des résultats de ce second tour.
Alors, vous savez, je crois que si on regarde avec la tête reposée les résultats de ce second tour, évidemment, très heureux de la réélection du président, mais mes premières paroles seront pour toutes celles et tous ceux qui ont voté pour le président Macron sans nécessairement adhérer à son projet et à sa vision du monde, parce qu'ils ont considéré que nos valeurs républicaines essentielles étaient en jeu et que face au projet de l'extrême droite, il fallait se mobiliser une espèce d'élan républicain. Donc, mes premières paroles vont être pour eux, parce que j'ai fait beaucoup de réunions, de rencontres citoyennes, une cinquantaine sur le terrain, et je me suis rendu compte combien, pour certains, il leur en coûtait, mais que ces valeurs fondamentales républicaines les ont guidés dans leur action. Et puis évidemment, mes deuxièmes paroles seront pour ceux qui sont convaincus par cet élan et cet espoir, cette espérance que crée le projet d'Emmanuel Macron. Je suis persuadé qu'après un mandat qui a été un mandat difficile, il faut maintenant tracer une voie, tracer une voie d'espoir et d'espérance, et c'est ça l'enjeu des semaines et des mois à venir.
Bon, ce n'est pas non plus un triomphe. Emmanuel Macron n'obtient que entre guillemets 58% des voix face à Marine Le Pen. C'était 66% il y a 5 ans. C'est 8 points de moins tout de même.
Et vous comprenez bien, au vu de ce que j'ai commencé par vous dire, que je crois que cette élection doit nous amener un sentiment d'abord d'humilité, évident, et ensuite de responsabilité. D'humilité parce qu'effectivement, la part du vote d'extrême droite est importante.
Oui.
Et de responsabilité, parce que les votes qu'on a réussi à fédérer nous obligent et nous tracent un chemin pour essayer de retrouver, de créer beaucoup plus de concorde nationale qu'on a pu vivre au dernier quinquennat, dans un quinquennat qui était difficile, avec beaucoup de crises, avec beaucoup de tensions. Il est maintenant temps, on a un rendez-vous avec l'histoire dans ce quinquennat, et ce rendez-vous avec l'histoire, c'est d'abord une concorde nationale qu'on doit retrouver sur les enjeux clés auxquels sont confrontés notre pays.
Mais vous ne craignez pas qu'avec ces résultats plus serrés que jamais, vous l'avez rappelé, face à l'extrême droite et le taux d'abstention record enregistré hier, le procès en illégitimité qui est fait par une partie de la population à Emmanuel Macron se poursuive encore pendant 5 ans ?
Alors, illégitimité, en aucun cas, parce qu'il y a des règles démocratiques, elles sont fixées par la Constitution, et évidemment... Alors certains vont dire qu'après le premier tour, il y a le deuxième, après le deuxième, il y a le troisième, et puis s'ils perdent le troisième, ils expliqueront que ce sera le quatrième tour dans la rue. Non, il y a des modèles démocratiques, la victoire est claire et nette, donc il faut respecter évidemment ces résultats démocratiques. Donc ce n'est pas un sujet de légitimité démocratique, c'est un sujet effectivement de comment recréer un élan. Pourquoi ? Parce que le rendez-vous historique qu'on a aujourd'hui, c'est la transformation profonde de la société française qui doit évoluer, qui doit se transformer au regard des défis du monde. Et on le voit tous les jours.
Mais est-ce que vous sentez Emmanuel Macron capable de se réinventer, de changer de méthode pour tenter de réconcilier ces deux France qui n'arrivent plus aujourd'hui à se parler ?
Moi, je pense qu'il a vécu un premier quinquennat qui, humainement, était un quinquennat extrêmement jalonné de toutes ces crises qui ont rendu son quinquennat complexe, difficile. Il a une énergie, il a aussi... une humilité. Et je vais vous dire quelque chose. François Bayrou, il a eu une parole qui m'est restée, c'était en début de quinquennat. Il a dit la différence entre ce président de la République et tous ceux que j'ai connus avant, c'est que lui est lucide, y compris sur ses erreurs, y compris sur ses axes d'amélioration. Et ça, ça change tout. Et là, je crois que Emmanuel Macron est homme à pouvoir effectivement voir comment appréhender ce deuxième quinquennat. Et il sera nécessairement différent du premier, différent dans la méthode, mais aussi différent dans le rendez-vous. On a un rendez-vous important de transformation de la société française.
Oui, et on va le rappeler, ce sont les législatives d'ici 7 semaines. Est-ce que Emmanuel Macron pourra compter, quoi qu'il en soit, sur le soutien du MoDem pour les 5 prochaines années ?
Quoi qu'il en soit, absolument, puisque, vous savez, on a toujours été un pilier loyal et solide de la majorité, donc ce n'est pas maintenant que ça va changer. Surtout, encore une fois, que le rendez-vous est important. Et moi, je crois à la sagesse du peuple français. Vous savez, cette sagesse qui a fait que beaucoup de voix se sont portées sur le président Macron parce que nos valeurs républicaines étaient menacées par l'extrême droite. Mais cette même sagesse, je le crois, elle fera en sorte que le peuple français donnera logiquement la majorité au président élu.
Est-ce que le soutien du MoDem, il est conditionné au nombre de candidats aux législatives que le président et son parti vont bien vouloir vous accorder ?
On ne fonctionne pas comme ça. Le soutien du MoDem, c'est un soutien réel, absolu et total au président de la République.
Inconditionnel.
Évidemment. Mais évidemment, on ne s'est pas engagé depuis 5 ans dans la dynamique de transformation de notre société, aux côtés, dans les moments difficiles, aux côtés du président, pour aujourd'hui se demander si on va le soutenir. Évidemment qu'on le soutient, évidemment, on est un pilier de la majorité. Et j'avais dit au début du quinquennat dernier à vos confrères journalistes qu'on avait probablement une des majorités les plus solides de la Ve République. Et bien ça s'est révélé. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier quart d'heure de ce premier quinquennat, le MoDem a été là, allié solide, pilier solide de la majorité. Et je crois que maintenant, le rendez-vous que nous avons avec le peuple français, c'est bien sûr de donner une majorité au président, parce qu'elle est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre le projet que nous avons.
Et justement, au sujet de cette majorité, Emmanuel Macron a évoqué dans l'entre-deux-tours l'idée d'un grand mouvement politique composé de La République En Marche, du Modem bien sûr, mais aussi du Parti Horizon d'Édouard Philippe, sans oublier tous les ex-LR et ex-socialistes qui se sont ralliés ces dernières semaines. Ça va être un peu l'auberge espagnole, non, cette maison commune ?
Alors, je ne crois pas, je comprends que vous souhaitiez le caricaturer comme ça. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est évidemment de créer ce rassemblement. Encore une fois, notre société ne se transforme pas par un clan. Elle se transforme par un élan, par un rassemblement. Et bien, c'est ça notre défi. Après, quelle qu'en soit la forme, évidemment, après chaque mouvement, chaque parti peut regarder sa place dans la maison commune, comme vous dites, en tout cas dans cet élan. Mais je crois que le sujet fondamental aujourd'hui, c'est comment le président va créer cet élan, ce rassemblement. Parce que, encore une fois, et je crois que tout le monde doit en avoir conscience, nous avons des rendez-vous extrêmement importants au niveau européen et au niveau national, et la France, évidemment, jouera un rôle déterminant face à ces défis.
Mais vous comprenez le sens de ma question, c'est-à-dire que plus on élargit sa majorité, plus on prend le risque aussi de tension, de l'avoir implosée.
Écoutez, encore une fois, on m'avait prédit que la majorité n'irait pas jusqu'au terme du premier quinquennat. Non seulement elle a été jusqu'au terme, mais elle a été d'une solidité remarquable. Eh bien, je vous redis ce que j'ai dit il y a 5 ans. Je pense qu'autour du président Macron, nous construirons une majorité solide, rassemblée. Et il faut accepter que cette majorité puisse avoir des formes différentes du débat au sein de cette majorité. Mais lorsque l'essentiel est en jeu, cette majorité aura un point commun, c'est de se rassembler autour du projet du président de la République pour la transformation de notre société.
Et justement, cette transformation, est-ce qu'elle ne passerait pas par une dose de proportionnelle aux législatives ? Promesse qui n'a pas été tenue, promesse qui avait été faite il y a 5 ans.
Alors, vous savez que le Modem y est très attaché.
Oui.
Effectivement, ça n'a pas encore été fait. J'espère que ça le sera dans ce mandat-là. En tout cas, nous, on continuera à porter ce flambeau. Et il y a une raison absolument fondamentale, j'aimerais l'expliquer à vos auditeurs en une seconde, mais pourquoi est-ce qu'on tient tellement à ça ? Parce qu'on parle souvent du fossé entre l'élu et le citoyen. Eh bien, avec une proportionnelle intégrale, par exemple, on vote pour quelqu'un qui vous ressemble. Et à cette personne, après, d'essayer de défendre ses idées au niveau national. Et donc le lien, la proximité est plus forte entre le citoyen et la personne pour laquelle il a voté. On ne vote pas au deuxième tour, comme aux législatives actuellement, pour le moins pire des deux candidats. Mmh. Et donc, ça recrée un lien de proximité entre l'élu et le citoyen. Et c'est pour ça, je crois, personnellement, c'est aussi l'idée de François Bayrou et du Modem, c'est pour ça que l'on croit à la proportionnelle comme une évolution nécessaire dans notre paysage politique.
Merci beaucoup, Sylvain Wazerman, député Modem du Bas-Rhin et vice-président de l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Excellente journée à vous.
Merci.
Europe Matin.
Élysée 2022.
Matinale spéciale.
Julien Pierce et Amblin Roche.
5h51, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Les cartons d'Emmanuel Macron ne quitteront pas l'Élysée. Le président a été réélu hier soir pour un second mandat à plus de 58,5% des voix contre plus de 41,4% pour Marine Le Pen. L'abstention rencontre également un record depuis un demi-siècle, 28%. C'est au Champ de Mars qu'Emmanuel Macron a célébré sa réélection. Dans son discours, le président s'est voulu rassembleur. Marine Le Pen a quant à elle estimé que le résultat représente en lui-même une éclatante victoire. Tous les camps se lancent donc désormais dans la bataille des législatives qui auront lieu dans 7 semaines. Dans un sondage Opinionway pour CNews Europe 1 paru hier soir, 63% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité et soit contraint à la cohabitation.
On l'a quelque peu avancé en raison de l'actualité Omblin. Elle, c'est votre partition, bien évidemment. Elle est née le 25 avril 1917, l'année du premier enregistrement d'un disque de jazz. La reine du swing et de l'improvisation, Ella Fitzgerald.
La virtuosité de sa voix, douée d'acrobaties vertigineuses, lui vaut d'être désignée trésor national sous la présidence de Ronald Reagan. Ella Fitzgerald occupe une position centrale dans l'art américain, passée de la mendicité dans les rues de Harlem à la succession de concours amateurs. Elle devient star à l'âge de 20 ans.
Blue moon, you saw me standing alone.
La carrière d'Ella Fitzgerald s'est forgée grâce à des rencontres essentielles. Celle avec Louis Armstrong a fait sans aucun doute partie des plus marquantes.
Billy Holiday l'appelle le proprio. Il est le patron du jazz, celui qui a participé à rendre cette musique populaire depuis son émergence à la Nouvelle-Orléans jusqu'au club de Chicago. Ella Fitzgerald nourrit une profonde admiration pour le trompettiste depuis qu'elle est jeune fille, lorsqu'avec sa mère, elle se régalait à écouter des disques achetés à des marchands ambulants. Summertime. And the living
is easy. Lorsqu'ils se retrouvent en studio à Los Angeles en 1956, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong se connaissent. Ils ont déjà eu l'occasion d'enregistrer ensemble.
Oui, c'est la première fois, c'était 10 ans plus tôt. Louis Armstrong était en pleine gloire, un artiste afro-américain d'envergure internationale. Cette rencontre était donc un bon moyen d'asseoir la popularité d'Ella Fitzgerald.
Mais cette fois-ci, la balance est inversée.
Oui, la chanteuse est au sommet de son art, tandis que la carrière du trompettiste est surtout derrière lui. Il suscite moins d'enthousiasme chez les jeunes. Il se trouve qu'une nouvelle forme de jazz, le bebop, est en train d'exploser, un jazz moderne au tempo rapide où l'improvisation est désormais la règle et bien plus qu'un courant musical. Les boppers se montrent très critiques sur la situation des Noirs aux États-Unis et pour l'heure, Louis Armstrong ne prend pas part au combat et ça lui est reproché. Heaven, I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together. Dance cheek to cheek. Nous voici donc dans les locaux de la tour Capitole, inaugurée 3 ans plus tôt par Frank Sinatra. Vous la voyez, cette tour de 13 étages en forme de pile de vinyle située à Hollywood. Nous sommes le 16 août 1956. La veille, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong se sont produits avec d'autres musiciens de jazz devant 22 000 personnes dans l'immense théâtre à ciel ouvert, le Hollywood Bowl. Ils prolongent donc leur retrouvaille. Steven Jezovanier raconte dans sa biographie Ella Fitzgerald, il était une voix en Amérique que Louis Armstrong n'est pas au mieux de sa forme, fatiguée par des tournées incessantes. Ella Fitzgerald se montre prévenante. Elle insiste pour que Louis Armstrong choisisse tous les morceaux et ce ne seront que des standards. Autumn in New York, why does it
seem so inviting? L'ambiance en studio est décontractée et les prises sont ponctuées de rire.
Oui, Louis Armstrong faisait tout le temps des blagues, raconterait Ella Fitzgerald plus tard, si bien qu'on ne savait jamais s'il fallait rire ou chanter. La chanteuse est si impressionnée qu'elle ne se rend compte, elle ne se rend pas compte de sa propre popularité. Mais ça a toujours été comme ça, lumineuse sur scène, et Ella Fitzgerald peine en coulisses à croire en son talent.
L'album Ella and Louis est envoûtant, élégant et intemporel.
Comme les suivants, ils enregistreront en tout 3 disques. Ella Fitzgerald apparaît comme le pendant féminin de Louis Armstrong. Lui, l'encourage d'ailleurs à marcher dans ses pas. Et il lui dit, tu verras, tu vas devenir complètement dingue comme moi. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be,
little dream of me.
Bad, bad, buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise,
oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Dream a little dream of me, le duo éternel Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, la grande dame du jazz, est née il y a 105 ans, le 25 avril 1917.
Merci beaucoup, Omblin, c'était très agréable. Dans un instant, le journal suivi des sports, mais avant, la météo.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
La météo, Anissa Haddadi, on va tout avoir aujourd'hui.
Ah bah je vous mets tout. Brouillard, nuages, averses, orages, vent, neige et soleil. Voilà, ce sera tout. Alors de manière générale, c'est vrai que c'est le soleil qui l'emporte, mais ce matin, il va falloir être très prudent en Nouvelle-Aquitaine où les brouillards sont épais et nombreux. Sur le quart nord-est entre l'Auvergne et l'Alsace en passant par la Bourgogne, là on a des nuages, ciel très menaçant avec même quelques gouttes toute la journée et des orages cet après-midi entre les Vosges et le Jura. La neige, c'est pour les Alpes à partir de 1900 mètres et partout ailleurs, ce sont les éclaircies qui l'emportent entre les Pyrénées-Atlantiques et la Côte d'Azur, c'est là que le soleil est le plus généreux, mais on a du vent. Le vent d'ouest qui souffle sur les côtes varoises et la Corse. 5 degrés Aurillac ce matin, 7 à Lille et Strasbourg, 10 degrés pour Paris et Quimper, et jusqu'à 13 à La Rochelle. Cet après-midi, nous aurons 14 à Cherbourg et 22 à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Nous sommes le lundi 25 avril. Il est 6 heures. Marine Le Pen sera-t-elle la première force d'opposition du prochain quinquennat ? Après sa défaite, la candidate du Rassemblement National se projette vers les élections législatives. Le parti devra-t-il chercher des alliances ? Reportage auprès des militants RN dans un instant. Le président de tous les Français. Voilà le message d'Emmanuel Macron au soutien de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat insoumis se rêve Premier ministre et œuvre pour l'union de la gauche en juin prochain. Et puis un scrutin marqué aussi par l'abstention, 28%, score quasi historique, rencontre avec ses électeurs désabusés à la fin du journal.
Europe Matin, matinale spéciale Élysée 2022.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Jamais l'extrême droite n'a atteint un tel niveau dans notre pays. 17 points, 5 500 000 voix. Voilà ce qui sépare Emmanuel Macron de Marine Le Pen. C'est moitié moins qu'en 2017. Un électorat RN que le président n'a pas ignoré hier soir lors de son discours au Champ de Mars.
Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non! Ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Emmanuel Macron, hier soir à Paris, le président qui a obtenu 58,5% des voix contre 41,5% pour Marine Le Pen, selon les résultats définitifs.
C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom Le Pen, attaque cinglante d'Éric Zemmour qui se projette vers les législatives.
L'homme de Reconquête a appelé, je cite, à une grande coalition des droites et des patriotes pour le mois de juin. Un appel qui ne devrait pas réchauffer les relations entre le camp Zemmour et Le Pen. Une amertume que les électeurs du Rassemblement National ont justement confiée à Marion Gauthier. Ils étaient réunis dans le 16e arrondissement de Paris avec leur candidate.
Je poursuivrai mon engagement pour la France
oui,
et les
normal.
Français.
Marine
et pas Éric, même si certains dans la salle ont voté au premier tour pour le candidat de Reconquête. Ses propos sèment l'incompréhension sous les drapeaux tricolores.
Après avoir fait 7%, j'irai à part avoir divisé le camp national, je trouve ça assez gonflé, quoi.
Des militants échaudés par les attaques de leurs voisins patriotes, mais raffermis.
On n'a pas besoin de Zemmour.
Et déterminés à poursuivre la dédiabolisation du Rassemblement national.
Je pense qu'on peut rien sortir de bon de cette alliance, parce qu'il a été beaucoup trop loin.
L'histoire des prénoms qui était complètement ridicule. S'il y a une alliance avec Zemmour, c'est que Zemmour doit nous écouter de A à Z quasiment.
Mais il devrait lui quand même faire preuve d'humilité.
L'eurodéputé Jeanlin Lacapelle insiste, Marine Le Pen est la chef de bataille de l'opposition à Emmanuel Macron.
Nous ne sommes pas dans les calculs à pareil. Le Rassemblement, nous portons bien au-delà de Reconquête. Et nous appelons la France entière, la France des patriotes à nous rejoindre. Je crois que nous avons une responsabilité, c'est défendre les Français contre les dangers d'Emmanuel Macron.
Et d'ajouter que le score de sa candidate est un espoir pour les législatives pour limiter les pouvoirs du président.
Reportage de Marion Gauthier.
Et avant les élections législatives, en juin, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, organisée avant le 13 mai. D'ici là, le gouvernement va remettre sa démission.
Qui pour remplacer Jean Castex, qui devrait a priori laisser son poste? Une certitude, son remplaçant sera en charge aussi de la planification écologique. Promesse de campagne du président. Louise Salé, concrètement, à quoi correspond cette mission?
Et bien que le Premier ministre pilotera au niveau national l'ensemble des mesures de transition écologique. Parce que décarboner la France, ça touche tous les secteurs, l'économie, l'agriculture, l'éducation, la recherche, l'industrie, etc. Ce Premier ministre sera appuyé par deux ministres, l'un pour sortir du pétrole, du gaz et du charbon, et l'autre pour changer la manière de se déplacer. Ce sont en tout cas les mots du président. Matignon aura donc un but, faire en sorte que les émissions de CO2 de la France baissent d'au moins 40% en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Pour l'instant, ces émissions n'ont diminué que de 20% en 30 ans. Il faut désormais qu'elles chutent encore de 20% en 8 ans seulement. Et attention, l'Union européenne veut que l'objectif prévu pour 2030 soit plus ambitieux qu'actuellement. La baisse exigée à la France sera donc encore plus importante.
Louise Salé, spécialiste environnement d'Europe 1.
Emmanuel Macron l'a d'ailleurs martelé hier soir, il veut faire de la France une grande nation écologique.
Une manière de tendre la main à ses adversaires, ce résultat m'oblige à ajouter le chef de l'État, conscient que ce vote est aussi un barrage à l'extrême droite, un paramètre qui n'a pas échappé à Jean-Luc Mélenchon.
Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs. Et nul.
L'ex-candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon hier soir a noté que près d'un électeur sur trois, 28% ne s'est pas déplacé pour aller voter hier.
Le leader insoumis qui a lancé hier soir la bataille des législatives, Jean-Luc Mélenchon, rêve de Matignon.
Et donc de devenir Premier ministre, mais la marche est haute. La France insoumise a pour l'instant 17 députés. Il en faut 289 pour la majorité. Alexandre Chauveau, le calendrier des législatives limite aussi le risque de cohabitation.
Oui, car lorsque les Français ont adopté en 2000 le quinquennat par référendum, c'était précisément pour aligner le mandat du président sur celui des députés. L'objectif étant d'éviter les cohabitations qui ont marqué les deux septennats de François Mitterrand et jugées comme un frein à l'action du chef de l'État. Pourtant, dès la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon a surpris en parlant des législatives comme d'un troisième tour. Le leader insoumis a demandé à ses électeurs de l'élire Premier ministre, manière d'enjamber le second tour de la présidentielle et surtout de sensibiliser son électorat à l'enjeu des élections du mois de juin prochain. Jean-Luc Mélenchon parie notamment sur l'absence d'état de grâce pour Emmanuel Macron et sur le délai particulièrement long entre les deux scrutins cette année, 2 mois, ce qui pourrait jouer en défaveur du chef de l'État. Le leader insoumis espère donc capitaliser sur ses 7,7 millions de voix au premier tour, même si une défaite avec un bon score à la présidentielle se traduit rarement par un nombre élevé de députés. Mais Jean-Luc Mélenchon veut croire en ses chances, pour le moment infime, et travaille à l'union de la gauche. Des accords de parti pourraient ainsi intervenir à échelle locale avant la fin de la semaine.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Des électeurs de gauche pour certains déçus, amers après le résultat hier soir. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris, Nantes et Rennes. Les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants après des incidents.
Des Français en colère donc, et d'autres indifférents, ceux qui ont choisi à contre-cœur ou qui n'ont même pas voté du tout. Écoutez ce reportage à Paris de CNTR.
La tour Eiffel scintille, l'ode à la joie résonne, emplit le Champ de Mars et les cris de la foule saluent l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais à deux rues seulement, ni drapeau tricolore, ni sourire béat pour Agathe et son groupe de copains. Ils ont voté Emmanuel Macron au second tour, mais n'ont pas du tout le cœur à la fête.
Non, alors j'ai pas du tout pensé aller au Champ de Mars, j'étais pas vraiment au courant et ça m'intéressait pas plus que ça. Aucun des deux candidats ne me convient, donc je vais pas aller fêter une victoire qui au final ne me représente pas.
Donc ouais, moi aussi je suis allé voter pour le moins pire des deux. Et ouais, on est déçus, mais...
Même ambiance désabusée quelques mètres plus loin. Lucie et Marvin reviennent d'une balade nocturne. Eux se sont abstenus à l'élection présidentielle.
Moi, j'ai pas voté tout simplement parce que je vais pas participer à cette mascarade. Pour moi, ça va rien changer. Je me suis levé ce matin, je vais me rendormir, je vais me relever demain matin.
On sait très bien que dans 5 ans, ils vont pas forcément faire ce qu'ils disent, donc ça sert à rien au final.
Un sentiment de lassitude pour ces deux amis qui n'attendent rien, disent-ils, de ces 5 nouvelles années d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Reportage signé OCNTA.
Un calendrier politique qui éclipse un rendez-vous judiciaire capital aujourd'hui. La première audience au procès du drame de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013. Le déraillement d'un train de la SNCF a tué 7 personnes, le pire accident ferroviaire de ces 20 dernières années.
6 heures passées de 8 minutes sur Europe 1. 2 personnes tuées par des policiers hier soir.
Le conducteur et son passager auraient essayé de foncer sur des agents. C'était sur le pont Neuf, dans le centre de la capitale. Leur voiture circulait à contresens quand les deux policiers essayaient de procéder à un contrôle.
Allez, on se change des idées avec de la musique et le retour de Likey Lee, vous la connaissez déjà.
La chanteuse suédoise sortira le 20 mai prochain son nouvel album, ça s'appelle I, I, et on connaît déjà un nouvel extrait qui s'appelle Highway to Your Heart, l'autoroute vers ton cœur. Voilà, belle déclaration d'amour pour démarrer la semaine.
Je préfère Highway to Hell, personnellement,
oui,
la CDC. Mais
deux,
bon,
deux ambiances, quoi.
Merci beaucoup, Romain Hoquet, pour ce journal.
Dans un instant, la suite de votre matinale.
Le journal des sports, suivi de notre invité, le politologue Bruno Cotterêts. A tout de suite sur Europe
1. Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports à 6h10 sur Europe 1 avec Martin Lange. Et Martin, on commence avec le foot et l'OM qui maintient la cadence.
Oui, 24 heures après le titre du Paris Saint-Germain, les Olympiens ont repris leur distance avec leur poursuivant. Victoire 1-0 à Reims. L'OM est toujours deuxième avec 6 points d'avance. De quoi voir venir et se projeter tranquillement sur la demi-finale de Ligue Europa Conférence jeudi. Le capitaine marseillais Steve Mandanda.
On jouait en dernier, donc on avait une pression supplémentaire. On n'a pas fait un grand match, on a pas mal d'erreurs techniques. Mais on a été solide et on a été réaliste. Et on continue de gagner, et ça c'est le plus important.
Steve Mandanda chez nos confrères d'Amazon. Derrière l'OM, les autres prétendants à l'Europe maintiennent le rythme également. Rennes a terrassé Lorient 5-0 et Nice s'en est sorti dans le temps additionnel contre 3. Enfin, dans le bas du classement, ça se complique sérieusement pour Metz, battu par Brest 1-0. Et pour Bordeaux qui a encore encaissé 5 buts à Nantes.
On passe à présent aux filles, Martin.
Oui, avec une demi-finale de Ligue des Champions franco-française et ce sont les Lyonnaises qui ont pris un léger avantage hier. Victoire 3-2 contre le PSG. Match retour à Paris samedi prochain. Un mot de Ligue 2 pour finir cette page foot avec Toulouse qui pourrait valider sa remontée en première division ce soir. Pour cela, il faudra battre Niort.
Cyclisme et une grosse frayeur pour Julien Alaphilippe.
Oui, le champion du monde a été pris dans une très grosse chute hier sur Liège-Bastogne-Liège. Il a dû abandonner et c'est un autre Français, Romain Bardet, qui l'a secouru. Écoutez son émotion.
J'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger. Et personne n'est arrivé, ça a duré une éternité, j'avais vraiment peur. Je fais pas du vélo pour vivre des... Voilà, il y avait des mecs partout par terre, c'était plus une course. Là. Je suis encore sur l'émotion, excusez-moi, parce que c'était vraiment...
Romain Bardet sur RMC. Julien Alaphilippe souffre de multiples fractures aux côtes et au dos. C'est son coéquipier belge Remco Evenepoel, 22 ans, qui s'est imposé plus jeune vainqueur du Monument Ardennais depuis 1968.
On termine avec les sports mécaniques.
Oui, un magnifique doublé français en MotoGP. Fabio Quartararo s'impose au Grand Prix du Portugal devant Johan Zarco. Après un début de saison difficile, le champion du monde revit.
Super content de cette victoire, sincèrement, dès le warm-up j'ai senti qu'on avait quelque chose en plus. C'est un rêve parce que je peux vous dire que c'était très compliqué la première partie de saison.
Fabio Quartararo sur Canal+, et puis un mot de F1 pour finir avec la victoire de Max Verstappen à Imola. Charles Leclerc termine 6e mais garde la tête du championnat du monde des pilotes.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Le rappel de l'actualité à 6h13, Alban Le Prince.
5 ans de plus, Emmanuel Macron réélu à la présidence de la République avec plus de 58,5% des suffrages contre plus de 41,4% pour sa rivale Marine Le Pen. Le tout sur fond d'une abstention record depuis 50 ans à plus de 28%. Marine Le Pen qui a connu un succès sans précédent dans les Outre-mer avec des scores de plus de 69% en Guadeloupe, 60% en Guyane et Martinique ou encore 59% à La Réunion et Mayotte. À l'étranger, Olaf Scholz, chancelier allemand, a été le premier dirigeant à contacter Emmanuel Macron pour le féliciter. Joe Biden a assuré que les États-Unis et la France continueraient à coopérer pour défendre la démocratie. De son côté, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, estime qu'Emmanuel Macron est un vrai ami de l'Ukraine.
Europe 1. Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h14. Votre invité, Julien, à présent, votre invité est politologue et chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po.
Bonjour Bruno Cotterès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin pour analyser avec nous les résultats de ce second tour. Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, a donc été réélu hier soir président de la République avec 58,54% des voix. C'est 8 points de moins qu'il y a 5 ans face à la même adversaire, Marine Le Pen. C'est le prix du bilan, le prix à payer quand on est président sortant, ou c'est avant tout l'illustration de la progression de l'extrême droite en France ?
C'est les deux, évidemment. Emmanuel Macron a perdu presque autant de voix que Marine Le Pen en a gagné d'une élection à l'autre. Il a obtenu une victoire assez nette quand même hier. 58%, on peut appeler ça une victoire extrêmement nette, extrêmement franche d'Emmanuel Macron. En revanche, on voit bien tout de suite les problématique de cette victoire d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, le Rassemblement National, n'a jamais été aussi élevé. On regarde la géographie électorale, on voit que la géographie électorale très forte pour Marine Le Pen dans le nord-est, toute la bande nord-est de la France, le sud-est, comme traditionnellement le Rassemblement National.
Et les campagnes.
Mais ça a essaimé dans de très nombreux endroits, dans de très nombreux départements. Il y a de très nombreuses communes où Marine Le Pen est arrivée en tête également hier. Donc on voit un pays...
Les Dom-Tom aussi.
Assez... Les Dom-Tom, voilà, les Outre-mer. On voit que le pays est très clivé, au fond, à l'issue de ce deuxième tour. Il suffit de regarder aussi la sociologie des différents électorats, des deux électorats, pour voir aussi le contraste extrêmement saisissant entre les deux France qui se sont hier réunis sur une journée électorale. Mais demain matin, dès aujourd'hui, il va falloir essayer de recoudre tout ça parce que la tâche va être difficile pour le nouveau président.
C'est une autre histoire qui commence. Est-ce que vous diriez, au regard de son adversaire, qu'Emmanuel Macron est ce matin un président mal réélu, voire le plus mal élu de la Ve République, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon ?
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le problème d'une certaine manière. D'abord, bien élu, mal élu, tout dépend des éléments qu'on met sur la table, tout dépend des critères. Au fond, si on prenait comme critère la marge de victoire, c'est une très nette victoire d'Emmanuel Macron. En 1974, le président Giscard d'Estaing est élu avec une marge extrêmement serrée. On aurait pu appeler ça mal élu d'une certaine manière. Je pense que le vrai problème, et de ce point de vue-là, ça nous dira quelque chose sur bien élu ou mal élu, c'est qu'est-ce que le président Macron II va faire de son nouveau mandat. Il a promis tout un tas de choses pendant la campagne de l'entre-deux-tours, en particulier, d'ailleurs dans son discours d'hier soir, la même chose, en particulier de tenir compte du résultat des élections premier tour, de ne plus gouverner de la même manière.
Donc un tournant à gauche.
Alors on peut imaginer un tournant entre guillemets à gauche. En tout cas, il a beaucoup mis le thème de l'écologie en avant. Comment tout ça sera suivi d'effet extrêmement concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « je vais changer de méthode de gouvernement » ? Et au fond, c'est ça qui nous dira s'il a été bien élu ou mal élu d'ici quelques semaines. N'oublions pas non plus qu'il faut quand même l'étape des élections législatives pour avoir la fin de l'histoire.
Est-ce que vous le croyez capable de changer de méthode ?
Alors quand on voit le style d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017, c'est vrai qu'on a vu un Emmanuel Macron pendant 5 ans qui n'a cessé d'affirmer très fortement à la fois son style présidentiel, son style de leadership avec une verticalité dont on se rappelle. Emmanuel Macron est tout sauf quelqu'un dont on peut imaginer qu'il ait une interprétation faible du rôle de président de la République.
Il n'a jamais eu autant de pouvoir, là.
Voilà, il a beaucoup de pouvoir. De toute façon, les pouvoirs du président de la Ve République, il a été réélu. Ils sont peu nombreux ceux qui ont été réélus. François Mitterrand, Jacques Chirac, mais c'était dans des situations de cohabitation. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron sort extrêmement fort quand même de cette élection. Alors, quand il dit qu'il a changé, on peut lui donner acte de ça, de la sincérité de son propos. Mais encore une fois, concrètement, comment ça va s'incarner de dire « j'ai changé de méthode de gouvernement » ? Est-ce que ça veut dire des conférences citoyennes, des grands débats ? pour tous les sujets ou pour certains sujets sur lesquels, avec quelle temporalité, les Français aussi, s'ils votent pour choisir un exécutif, c'est pas non plus qu'on leur explique que les réformes arriveront dans 2 ans, dans 3 ans, une fois qu'on aura délibéré. Donc là, voilà, tout un tas de problèmes extrêmement concrets dont il doit nous parler très vite.
On a peut-être une première indication avec la manière dont a été mené le débat du second tour. Son entourage nous disait attendez, vous allez voir un président qui ne sera pas arrogant, et au final, on a vu peut-être que ça.
C'est vrai que dans la posture générale du président Macron pendant le débat de l'entre-deux-tours, c'est vrai que la posture, le langage corporel, ce qu'on appelle le langage corporel, c'est vrai qu'on voyait un Emmanuel Macron qui était d'abord très sûr de lui, comme s'il avait déjà intégré qu'il avait gagné. Marine Le Pen, au contraire, comme si elle avait accepté sa défaite déjà d'une certaine manière. Emmanuel Macron qui avait multiplié les attitudes corporelles qui renvoyaient une image, effectivement, un peu de condescendance par rapport à Marine Le Pen.
En tout cas, quand on voit le taux d'abstention hier, plus d'un électeur sur quatre ne s'est pas rendu aux urnes alors que Marine Le Pen était au second tour, sans compter les nombreux votes blancs et nuls. On se dit que notre démocratie est malade, non ?
C'est clair que le taux d'abstention est très élevé. Quand on cumule, comme vous le dites, effectivement, abstention, vote blanc, vote nul.
16 millions d'électeurs.
Ouais, c'est un gros paquet d'électeurs. Le corps électoral français, c'est 48 millions d'électeurs. 16 millions qui soit se sont abstenus, soit ne se sont pas retrouvés dans l'offre électorale du deuxième tour, en disant c'est la même affiche qu'en 2017. On a aussi beaucoup d'électeurs, on pense en particulier aux électeurs qui étaient issus de la gauche, qui hier ont un sentiment de pas du tout s'y retrouver. Certains ont voté pour Emmanuel Macron. On dispose d'enquêtes qui nous montrent que du côté des électorats de Jean-Luc Mélenchon, d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, ça a quand même pas mal voté Macron hier. Mais
un peu plus
c'est
moitié,
un vote Macron, au fond, très sans espoir, avec l'idée qu'on a voté, mais c'était plus par défaut pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut politiquement construire, à la fois comme gouvernement, comme direction de politique publique? Pour Emmanuel Macron, c'est pas facile.
Marine Le Pen avait recueilli 34% des voix au second tour en 2017. Là, son score est de près de 42%. Donc, on peut supposer que si elle poursuit sur ce rythme, dans 5 ans, elle entre à l'Élysée, non ?
Oui, si on faisait une simple projection linéaire et qu'on reprenait tout l'historique des scores à la fois de Marine Le Pen ou de son père à l'élection présidentielle, c'est vrai qu'on verrait dès 1988, Jean-Marie Le Pen est à 14,5%, 95, il est à 15%, 2002, il se qualifie au deuxième tour. Il n'y a qu'en 2007, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, que le Rassemblement National, le Front National de Jean-Marie Le Pen est ramené à 10%, mais dès 2012, la première candidature de Marine Le Pen, on voit que ça progresse en 2017, ça progresse en 2022, donc si on faisait une sorte de projection linéaire, ça la conduirait à l'Élysée, effectivement, en 2027,
mais c'est une autre histoire. Nécessaire, après 3 échecs.
C'est vrai que l'élection présidentielle de la Ve République, c'est une élection où l'incarnation, l'étoffe, avoir l'étoffe de président de la République est très important. Mais vous savez, il y a deux dimensions dans cette élection présidentielle. Il y a la dimension de leadership vertical, avoir l'étoffe du héros. On va dire. De ce point de vue-là, Marine Le Pen a toujours été, en termes d'image, un peu dominée par Emmanuel Macron. Mais il y a la dimension horizontale, le sentiment de proximité, le sentiment de comprendre les problèmes des Français de tous les jours, le sentiment d'avoir des solutions concrètes à offrir. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que Marine Le Pen, elle, en revanche, a toujours bénéficié de davantage de crédit qu'Emmanuel Macron. Donc, c'est ces deux dimensions qu'il faut arriver à combiner. Emmanuel Macron, la dimension verticale, les Français lui ont toujours accordé. Il lui reste à prouver, conformément à toutes les annonces qu'il a faites, que sur l'horizontale, il a changé.
Bon, maintenant que l'élection présidentielle, Bruno Cotterêts, est terminée, place désormais aux législatives. C'est habituellement une promenade de santé, ou presque, pour le président fraîchement élu, en tout cas dans la Ve République. Sauf que là, elles sont loin, ces législatives. Premier tour le 12 juin, c'est dans près de 2 mois. Est-ce qu'il y a un risque, à vos yeux, qu'Emmanuel Macron n'obtienne pas la majorité à l'Assemblée, d'autant que sa campagne, on l'a dit, n'a pas soulevé les foules ?
Pour le moment, je ne crois pas à un scénario qui sera un scénario à l'issue duquel, au terme des élections législatives, Emmanuel Macron serait obligé de cohabiter. La cohabitation, c'est quand on a une majorité de députés qui est opposée au président de la République. La vraie question pour Emmanuel Macron, ça va être majorité relative ou majorité absolue, comme en 2017. Et avec qui ? Si on a le périmètre de la majorité présidentielle, il y a qui ? Dans ce périmètre, il y aura le MoDem, évidemment. Il y aura le parti d'Edouard Philippe,
Horizon,
bien évidemment. Il y aura Agir, bien évidemment.
Est-ce que ça va faire
une majorité absolue ou si ça ne fait pas une majorité absolue, est-ce qu'Emmanuel Macron aura besoin, eh bien à ce moment-là, d'une véritable entente sous la forme presque d'une coalition, par exemple avec les Républicains ?
Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « Élisez-moi, Premier ministre, on peut, nous, la gauche, si on s'unit, me placer à Matignon », est-ce que ça vous paraît plausible ?
D'abord, c'est une formule qui est intéressante. Évidemment, il faut rappeler que c'est le président de la République
qui choisit.
Nomme le Premier ministre, qui le choisit. Et Jean-Luc Mélenchon a utilisé cette expression justement pour en appeler à l'électorat de gauche en disant « Mais au fond, si vous nous donnez une majorité, je serai nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ». Bon, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, on va dire, de cartel électoral, c'est-à-dire faire une coalition ou faire une coalition au niveau des circonscriptions entre les différentes formations de la gauche pour envoyer un message d'unité aux électeurs de gauche. Pourquoi pas ? Mais il y a l'autre dimension qui est-ce qu'il y a suffisamment aussi de convergence sur leur programme ? Si jamais ils gagnaient finalement cette coalition, est-ce qu'ils sont prêts à gouverner ensemble sur des dimensions de politique économique, de politique européenne, de réforme institutionnelle, sur lesquelles il y a quand même tout un tas de nuances, on va dire les choses comme ça, entre les différentes formations politiques de la gauche ?
Il eût peut-être été plus productif qu'il se pose toutes ces questions avant la présidentielle, non ?
Ah, c'est sûr qu'une coalition, ou on va dire une sorte de projet commun entre des formations politiques, ça prend du temps. C'est pas seulement que ça prend du temps pour le fabriquer, ça prend du temps pour que ça soit incarné, pour que les électeurs y croient, pour qu'ils ressentent qu'il y a effectivement une histoire commune et qu'il y a suffisamment de cohérence pour un projet de gouvernement.
Bruno Cotterêts, vu l'état dans lequel est la classe politique, si l'on met de côté la majorité, est-ce que la contestation à Emmanuel Macron va surtout s'illustrer dans les 5 ans qui viennent dans la rue ?
Éventuellement, on a vu effectivement pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron à quel point la contestation de son projet avait connu un paroxysme au moment de la crise des Gilets jaunes.
C'est ce qui est annoncé.
Tel est bien l'objectif sans doute du chef de l'État lorsqu'il en appelle à l'unité nationale, à gouverner différemment, c'est de ne pas revenir vers un scénario de type crise des Gilets jaunes. On a deux dimensions dans la crise des Gilets jaunes. On a tout ce qui est l'injustice sociale, le pouvoir d'achat, mais aussi la crise démocratique. Emmanuel Macron a un enjeu considérable. Dès 2017, il a annoncé que rien n'était plus essentiel à ses yeux que réformer la politique en France, le système démocratique. Là, il ne peut plus reculer. Il y a vraiment un enjeu considérable. Donc, si
ça
on
veut dire
éviter...
quoi ? Ça veut dire une dose de proportionnelle aux législatives, par exemple ?
Oui, ça veut dire évidemment la question de la proportionnelle. On verra, parce que vous savez, la proportionnelle, c'est un peu un slogan, mais qu'est-ce qu'on met derrière ? On peut avoir une dose de proportionnelle et avoir un système qui continue d'être extrêmement majoritaire. Il n'y a peut-être pas que la proportionnelle, il y a aussi comment concrètement faire rentrer le citoyen davantage dans la production des politiques publiques. Une institution comme le Conseil économique et social environnemental à cet objectif très fortement, c'est à véritablement faire re-rentrer le citoyen dans la production de la loi et dans les institutions. Bel objectif, par contre, il faut le mettre en œuvre, c'est compliqué.
Eh bien, ce sera l'objet de ce quinquennat qui s'ouvre à présent. Merci beaucoup Bruno Cotterêts, politologue et chercheur au CEVIPOF, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé. Bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Vous restez avec nous. Dans un instant, Dimitri Pavlenko va nous rejoindre pour poursuivre cette matinale spéciale élection présidentielle. À tout de suite.